colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je suis professeur honoraire au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et je suis proto-historien, m'intéressant essentiellement à la Méditerranée et à l'Europe. Très bien. Alors, les armes du néolithique et de l'âge du bronze européen. Mon exposé a pour objectif d'évoquer de façon générale les armes utilisées lors de confrontations au cours de la proto-histoire ancienne de l'Europe, c'est-à-dire le néolithique et l'âge du bronze. Toutefois, on ne perdra pas de vue que ces instruments n'ont pas été forcément destinés à des engagements belliqueux. Ils ont pu être utilisés lors de chasses, bien entendu, voire se limiter à des fonctions plus pacifiques d'ordre symbolique, affichage social, codage du genre, voire simple exhibition des vertus guerrières. De tels usages seront à l'occasion évoqués lors de cette présentation. Celle-ci se bornera à une esquisse globale. Pour être précis sur l'évolution de l'armement et ses disparités, il faudrait traiter du sujet siècle à siècle et région par région, ce qui n'est nullement le propos de cette modeste contribution. Alors, premièrement, l'âge de l'arc. Les chasseurs paléolithiques, lors de leurs activités cynégétiques, avaient recours à l'utilisation d'armes. Les plus proches de nous dans le temps, les hommes du paléolithique supérieur, disposaient ainsi d'engins dont nous sont parvenus les pointes en os, en bois de cervidé ou en silex. Ces armatures étaient emmanchées sur des hampes, lesquelles étaient utilisées comme javelots, piques, sagaies, etc. Les Magdaléniens ont beaucoup amélioré l'efficacité de ces instruments en inventant le propulseur, petite baguette utilisée comme bras de levier et augmentant nettement la vitesse du projectile et sa force de pénétration. Mais la plupart de ces engins vont se trouver dépassés par l'invention de l'arc, qui sera l'arme reine des temps mésolithiques, c'est-à-dire des derniers chasseurs-cueilleurs d'Occident, et néolithiques, c'est-à-dire l'arme des premiers agriculteurs. On discute toujours sur le moment de son invention. Certains auteurs le verraient bien dès le solutréen, c'est-à-dire en gros vers moins 20 000 ans, en faisant observer que les armatures de silex de cette culture, comme les pointes à crin que vous avez en bas sur la gauche, certaines pointes foliacées, les deux dernières sur la droite, voire dans certains gisements comme la grotte du Parpaio en Espagne, n'est-ce pas, méditerranéenne, des pointes à pédoncules et ailerons, qui sont celles du haut et les trois de la partie centrale, n'est-ce pas, qui ne se distinguent guère typologiquement des pointes de flèches banales du néolithique. Aucune découverte n'est pourtant venue confirmer cette hypothèse. De fait, les plus anciens exemplaires connus d'arc ne remontent qu'au début des temps glaciaires. Des restes d'arc trouvés à Stelmor, près de Hambourg, sont datés du 9e millénaire avant notre ère. Ils étaient associés à une centaine de flèches en bois de pin, présentant une extrémité fendue pour recevoir une pointe en matériaux durs et un empennage à leur partie proximale. Plusieurs arcs ont été mis au jour dans les tourbières du nord de l'Europe ou de Russie septentrionale. Les plus connus sont ceux d'Holmgard, au Danemark, qui ont 1,50 m à 1,60 m de développement et qui sont datés du Maglemosien, c'est-à-dire une culture, en gros, des 8e, 7e millénaire avant notre ère. La série la plus nombreuse est celle de Vismor I, dans la région du lac Sendar, en Russie, datée des 7e, 6e millénaire avant l'ère. Les pièces les plus courantes, vous en avez quelques exemplaires sur l'image, sont courtes, en gros 1,40 m à 1,50 m, et comportent des poupées, c'est-à-dire les extrémités, n'est-ce pas, de morphologie variée, à renflement, à dégagement par encoche, parfois à perforation à une seule extrémité. Cette grande variété d'arcs se retrouve sur les figurations peintes sous les abris de l'Espagne méditerranéenne. Cet art, dit art du Levant espagnol, a été longtemps attribué aux derniers chasseurs-cueilleurs de la péninsule ibérique en raison de son association avec de nombreuses scènes de chasse. Il est aujourd'hui daté du néolithique en raison notamment de recoupements sur les mêmes panneaux avec une autre forme d'art plus ancienne, c'est pas, est bien daté du VIe millénaire, qu'on appelle l'art macroschématique. Donc, cet art est postérieur au VIe millénaire avant notre ère. On y voit des individus dotés d'arcs de toute morphologie et dimension, avec notamment des spécimens à double courbure, comme celui que vous avez en bas à gauche, le second sur la gauche. Dans sa thèse sur l'archerie néolithique de l'âge du bronze en Europe occidentale, Marie-Hélène Diaz-Mereino s'est fondée sur 26 arcs complets ou quasi-complets provenant de plusieurs pays européens, Allemagne, Danemark, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni. Il en existe bien d'autres, mais partiels. À l'arc sont associées des flèches, n'est-ce pas, perçantes ou tranchantes, qui constituent la partie percutante du projectile. En Occident, les modèles que vous avez sous les yeux, qui sont des modèles du Mésolithique ou du Néolithique ancien, sont voyés à pointe triangulaire. Si, évidemment, on arme le projectile, si on dispose la pointe vers le haut, ou tranchante si c'est la partie la plus large qui est, en quelque sorte, qui percute. Autrement dit, selon la façon dont on les emmanche, les premières perforent, les secondes cisaillent. Les flèches perçantes de forme foliacée, comme par exemple la quatrième du haut ou la dernière du bas foliacée ou losangique, n'apparaissent qu'au début du 5e millénaire en Italie, dans la civilisation des vases à bouche carrée, tandis que le modèle à pédoncule et aileron, qui était le plus représenté essentiellement sur cette image, n'émergera que vers le début du 4e millénaire, pour connaître pendant quelques 2000 ans, avec des variantes selon les régions et les cultures, un évident succès. L'arc, arme de chasse, a pu être arme de guerre. Peut-être a-t-il été utilisé, on ne sait pas, lors de l'élimination des populations mises au jour sur le site du Jebel Saaba, ou site 117 au Soudan, dont vous avez une des sépultures ici, aux alentours de 12 000, 10 000 avant notre ère. 24 sujets comportent des armatures fichées dans leurs os. Vous voyez que la personne qui a pris la photo a mis des crayons pour indiquer en quelque sorte les points d'impact des flèches qui sont encore fichées dans les os de ces sujets. Diverses nécropoles européennes du Mésolithique ont livré des individus oxys par flèche, Voloshki, Vasilevska en Ukraine, Sheila Kladovei en Roumanie. Le nombre de blessés ou de tués par l'arc ira en augmentant tout au long du Néolithique, plus particulièrement vers la fin de cette période, cette situation correspondant à des poussées démographiques et à une extension des espaces exploités par l'agriculture et l'élevage, toutes choses accentuant le processus de compétition pour l'appropriation de territoires. Les meilleures représentations des guerres néolithiques nous sont données par l'art, déjà évoqué, du Levant espagnol. Ce sont des combats d'archers, vous le voyez, qui oppose deux groupes d'intervenants aux stratégies très diverses. Par exemple, sur l'exemple que vous avez sous les yeux, là, n'est-ce pas, qui est la scène de Los Dogues, dans l'Espagne méditerranéenne, dans la région de Ares del Maestre, très forte mobilité, vous voyez, des intervenants, mettant en jeu des qualités de rapidité, d'adresse ou de protection, n'est-ce pas, ou au contraire, sur une autre scène qui est ici, Molino de la Fuente, dans la région de Albacete, une position accroupie, notamment pour le groupe qui se trouve en haut à droite, voyez, position accroupie, recherchant le camouflage et peut-être les tirs d'embuscade. On connaît aussi dans cet art des scènes d'exécution dont les membres du peloton éliminent leurs victimes à l'arc. Vous avez en bas la victime percée de flèches et vous avez le peloton d'exécution avec les bons hommes qui tiennent leur arc levé après exécution. Donc, l'arc et la flèche participent dès le 4e millénaire à la construction idéologique du guerrier, puisque ces deux armes peuvent être figurées sur les stèles anthropomorphes de cette époque, c'est-à-dire la plus ancienne statuaire européenne. Alors vous voyez, ne regardez pas trop les proportions, parce que l'artisan ou l'artiste, en quelque sorte, a pris quelques libertés avec ça. Vous avez sur le personnage de gauche, n'est-ce pas, en haut, sur la droite, vous avez une hache, et puis vous avez, un arc et sa flèche à côté. L'arc est traité d'une façon approximative, disons. Ces instruments servent donc à connoter les effigies de personnages masculins, alors que les femmes, vous avez une femme représentée à côté sur votre droite, sont exclues du maniement des armes et sont signifiées par des caractères anatomiques, leurs seins, vous le voyez, ou par des parures, les colliers. Autour de 3000 avant notre ère, certains chefs se reconnaissent d'ailleurs, à cette époque-là, là on est vers 3500-3000 avant notre ère, n'est-ce pas, se reconnaissent à la profusion d'armes observées dans leurs tombes, et tout particulièrement au nombre élevé et à la qualité des armatures de flèches qui composaient leurs carquois. Ainsi, le capo di tribù, le chef de tribu de la nécropole de la Madonna delle Grazie à Mirabella e Clano, en Campanie, détenait dans son carquois 42 flèches perçantes et 36 autres armatures trapézoïdales, à côté de 2 poignards en silex, 3 poignards de cuivre, une hache de métal, etc. L'arc est donc à la fois un marqueur de la masculinité, mais aussi de la hiérarchie. Dans la culture dite du vase, voilà encore une autre stèle, n'est-ce pas, qui provient de Suisse, et vous voyez que l'individu possède un arc et sa flèche qui est figuré en travers de la statue. Dans la culture dite du vase campaniforme qui s'est développée en Europe de l'Ouest entre 2500 et 2200 avant notre ère, les tombes livrent, à côté de flèches en silex, n'est-ce pas, qui sont nombreuses, des plaquettes de pierre perforées, vous en avez une sur votre gauche ici, que l'on appelle brassard d'archer, et qui sont considérées comme des pièces de protection du poignet de l'archer lorsque la corde, une fois lâchée, se détendait, autrement dit, des objets que l'on plaçait, que l'on fixait ici au poignet, voyez, et autrement dit, lorsque la corde venait buter, en quelque sorte, contre le poignet. Cette fonction reste toutefois discutée. C'est également dans le cadre de cette culture qu'on va voir se développer des armatures de cuivre à palette foliacée, en bas la seconde pièce, que l'on appelle pointe de palmela. Leur aire d'extension se limite à la péninsule ibérique et à la moitié sud-ouest de la France. Ce peut être des armatures de flèches, certainement plus lourdes que celles en silex, mais aussi des pointes de javelot. On peut dire que le mésolithique et le néolithique ont constitué la grande période de l'arc, instrument essentiel des conflits où le protagoniste peut se tenir à distance. Cette prééminence de l'arc et de la flèche s'étendra à la sphère du symbolique. Les meilleurs artisans vont parfois confectionner des flèches d'une très haute qualité technique par leur finesse, leur minceur, le dégagement tout particulier des ailerons. Ces pièces, très fragiles, inadaptées à un usage pratique, n'auront pour seul but que de connoter le statut social de leur possédant, au titre de marqueur de prestige. Tel est le cas des flèches alcalarenses, c'est ce que vous voyez ici, du sud de l'Espagne et du Portugal, au troisième millénaire, où, à cheval sur les troisième et deuxième millénaires, les armatures ogivales, vous en avez une à droite, dites armoricaines, mises au jour dans les grands tumulus princiers de l'âge du bronze ancien, en Bretagne donc. C'est dire que l'arc et ses attributs sont, dans les mentalités de l'époque, emblématiques des dominants de ce temps. L'arc ne disparaîtra jamais de la scène des conflits, même si sa place pourra décliner. Lorsqu'à l'âge du bronze, les flèches de silex seront remplacées en Occident par des armatures en os, à palette foliacée ou à aileron, leur nombre baissera considérablement. Vers la fin de l'âge du bronze, ces armatures seront confectionnées en métal et pourront obéir à divers modèles. Alors, je vous en montre un, par exemple. Ce sont les flèches à palette foliacée ou à aileron et à soie renflée du type de Mayaquin. On est ici aux alentours du 9e, 8e, 7e siècle avant notre ère. Dans ce contexte, on signalera aussi, à titre de curiosité, l'existence dans le sud de la péninsule ibérique de pointes de javeline de 25 à 30 cm de long, comportant une palette triangulaire et un très long pédoncule pour partie épaissie. En dehors d'un dépôt rituel de 27 pièces mis au jour dans le tumulus du grand mégalithe de la Pastora, près de Séville, on n'en connaît qu'un très petit nombre d'exemplaires. Leur rareté les a parfois fait considérer comme des importations d'origine est-méditerranéenne où des pièces semblables existent en Anatolie et au Levant vers 3000 avant notre ère. On sait aujourd'hui que ces flèches trouvées en Espagne donc ont été fabriquées en Occident avec du cuivre ibérique. Il semble s'agir de pièces de prestige, donc non fonctionnelles. Alors, deuxième point, l'invention du poignard. Si, depuis la fin des temps paléolithiques, l'art semble avoir été l'arme dominante des ultimes communautés de chasseurs, puis des premières sociétés agricoles, ces dernières vont élaborer à leur stade terminal une nouvelle arme destinée, celle-ci, au combat rapproché. Le poignard à lame de pierre ou de métal. Ces pièces apparaissent dans la première moitié du IVe millénaire en Italie du Nord et en Suisse et signent, semble-t-il, les débuts de lutte à l'arme blanche. Les poignards à lame de silex, voyez, pouvaient être constitués par de très longues lames de silex. Celle-ci fait 22 cm de long. Et vous voyez dans la partie centrale à peu près un décrochement qui montre toute la partie inférieure qui était emmanchée. Donc n'était en quelque sorte visible que la partie supérieure, c'est-à-dire la moitié supérieure de la pièce. Ces dagues, donc, pouvaient être fabriquées à partir de longues lames détachées de blocs de silex par un système sophistiqué de pression au levier. Elles peuvent bénéficier donc d'une très longue soie, comme sur cet exemplaire qui provient d'un dolmen de Coutignargues, du dolmen de Coutignargues dans les Bouches-du-Rhône. Parmi les pièces les plus originales, voilà une autre par exemple, voyez, recto et verso. Parmi les pièces les plus originales, on connaît des exemplaires comme celui que vous avez à gauche, n'est-ce pas ? Qui possède une retouche oblique, en écharpe. Vous voyez, les retouches qui ont servi à faire la pièce sont de biais, comme ceci. Et cette pièce a des parallèles techniques dans les poignards. Vous en avez un à droite, du prédynastique égyptien, et sont en gros à peu près contemporains, c'est-à-dire seconde moitié du IVe millénaire. Sur le petit poignard, que vous avez ici à gauche, Dodzi, Ozi, c'est le fameux Hibernatus, vous savez, l'homme des glaces trouvé dans les Alpes il y a quelques années et daté vers 3200 avant notre ère. Sur le petit poignard à lame de silex d'Ozi, vous avez le poignard et le fourreau à côté, on aurait reconnu des traces de sang humain, indice de la fonctionnalité de ces dagues. Ces instruments, qui faisaient partie de l'équipement de certains hommes, accompagnaient également ceci dans la mort, puisque ce sont dans les tombes essentiellement que nous les retrouvons aujourd'hui. Curieusement, le développement des poignards en silex, donc vous avez ici un poignard en silex sur votre droite, à gauche une lame de poignard en cuivre, eh bien ces éléments sont peu ou prou contemporains. La métallurgie du cuivre, déjà présente en Europe centrale et orientale dès le 5e millénaire avant notre ère, gagne progressivement l'Europe de l'Ouest. Ainsi, en Italie du Nord et en Italie centrale, une compétition s'instaure entre les poignards obtenus par retouche biface sur gros éclats de silex, donc l'exemplaire de droite, et les dagues de métal, dont les plus anciennes sont attestées en Toscane et en Ombrie à partir de 3600 avant notre ère. Le modèle que vous avez sous les yeux est un poignard dit de Remedello, vous voyez, avec une lame triangulaire et une soie quadrangulaire qui était évidemment emmanchée dans un manche en matière périssable, bien entendu. Et d'ailleurs, ces poignards du type de Remedello ont été, à cette époque, abondamment figurés sur les statues menhirs ou sur les blocs rupestres historiés de l'Italie alpine. Alors vous voyez, là, vous avez à la fois la dague qui est représentée, enfin la lame proprement dite, la poignée qui est très mince, qui représente, et puis le pommeau qui est représenté par une sorte d'image en quelque sorte triangulaire. L'usage des dagues de cuivre comme arme blanche est démontré, notamment, par le fragment de lame plantée dans le dos d'un sujet de la grotte du Pas de Joulier dans le Gard. À compter de 2500, avant notre ère, alors que la concurrence avec les poignards de silex décline, la culture dite du vase campaniforme, ces vases en forme de campana, de cloche, donc, vase campaniforme, va vulgariser la fabrication de poignards en cuivre. Alors vous en avez un en bas sur la droite, qui présente une très longue lame et une petite languette de fixation à un manche. Ce modèle connaîtra des exemplaires de taille parfois supérieure à 30 cm. Au début de l'âge du bronze, c'est-à-dire en gros dans la première moitié du second millénaire avant notre ère, dans l'ère italo-alpine hérodanienne, d'un côté, mais aussi en Europe centrale avec la culture du Nétis, on assiste au développement de poignards métalliques, n'est-ce pas ? Voyez, la poignée est rivetée et fixée à la lame. On pense qu'il s'agit de pièces de prestige plus que d'armes blanches, parce qu'on les trouve essentiellement dans les tombes également. Le versant symbolique de ces dagues se manifeste également à la même époque par des instruments typologiquement proches, mais dont l'emmanchement ne se fait pas de manière axiale, mais verticale. Vous voyez les rivets sur la partie droite de la pièce, et ces pièces étaient, le manche était, si vous voulez, fixé en angle droit par rapport à la pièce elle-même. Ce sont des hallebardes, il a pu en exister déjà en silex auparavant, mais elles sont rapidement produites en cuivre, puis en bronze, à partir de 3000 avant notre ère, et au début du second millénaire, on en trouvera sur une large sphère allant de la Hongrie à l'Espagne, de l'Irlande à l'Italie. Troisième et dernier point, l'âge de l'épée. Le troisième grand moment dans l'histoire de l'armement européen du néolithique et de la proto-histoire correspond à l'apparition de l'épée. Le plus ancien exemplaire connu pourrait être une pièce qui n'est pas figurée là, une pièce à longue soie trouvée dans le tertre de Maïkop, dans le nord du Caucase, une pièce longue de 61 cm et datée vers 3600-3500 avant notre ère, mais trop isolée géographiquement pour avoir servi de prototype. Les exemplaires que vous avez sous les yeux d'Arslan Tepe en Anatolie, à poignée large, qui sont considérés tantôt comme des poignards longs ou des épées courtes, vous savez, la terminologie fluctue là-dessus. Hein, bon. Et ces exemplaires, donc, sont datés vers 3000 avant notre ère. Il ne semble avoir joué aucun rôle dans l'élaboration des premières épées européennes. Celles-ci nous paraissent plutôt des productions issues de tentatives autochtones opérées au cours du bronze ancien autour de 1700 avant notre ère. Les poignées rivetées, vous l'avez vu, étaient dès lors en usage sur les poignards. Il suffisait de procéder à l'allongement de la lame, technique qui trouva son aboutissement dans la réalisation de pièces courtes, puis de plus en plus allongées. Alors, les deux exemplaires de gauche sont des exemplaires ibériques, n'est-ce pas, qui proviennent de la culture dite del Argar, dans le sud-est de l'Espagne. On les date aux alentours de 1700-1600 avant notre ère. Ce sont des sortes de poignards allongés, mais qui déjà, en quelque sorte, méritent le nom d'épée. Et l'exemplaire que vous avez à côté, c'est l'exemplaire d'Adju Samson, très connu, exemplaire du bronze ancien trouvé en Hongrie, avec lame décorée très, très riche, très belle. Et très vite, des ateliers vont naître dans les Carpates et vont diffuser des rapières qui seront copiées jusqu'en Scandinavie. Dans le nord de l'Europe, les poignées porteront des ornementations de spirale. Les poignards et les épées des aristocrates inhumés dans les tombes du cercle A de Mycène sont des lames de prestige à décor incisé, incrustées de niel, c'est-à-dire une substance à base de sulfure métallique, d'or et d'argent. Plus modestement, des faisceaux de filets parallèles, vous le voyez, décoreront parfois les lames sur les pièces issues d'ateliers occidentaux, comme ici sur une épée du groupe de Saint-Brandan en Bretagne, et que l'on peut dater des environs de 1500 avant notre ère. Saint-Brandan, en Bretagne. À compter du bronze moyen, c'est-à-dire en gros autour de 1500, de 1400 avant notre ère, des fondeurs ambulants se déplacent d'une région à l'autre, mais on n'exclut pas également le déplacement de guerriers, sorte de mercenaires, à une époque où circulent aussi certaines pièces de prestige, comme les premiers chars munis de roues à quatre rayons. Réalisés dans des moules de pierre ou à la cire perdue, les épées sont désormais en bronze. La dureté du métal permet de transpercer comme arme d'estoc ou de trancher comme arme de taille. Dans la seconde moitié du second millénaire, ou du début du suivant, de nombreuses variétés vont voir le jour. Alors, elles peuvent jouer sur la morphologie de la lame. On a des lames qui sont parfois très étroites, n'est-ce pas, à bord parallèle, d'autres, des lames effilées. On a aussi des lames qu'on appelle pistiliformes, ce sont des lames, n'est-ce pas, qui s'élargissent à un moment dans leur déroulement, et puis des formes qui sont un peu présentes peut-être sur la dernière, là, celle du bas, épées en langue de carpe. Vous avez des lames qui sont parallèles et puis qui deviennent, à la fin, très rapidement pointues. Donc, très grande variété. Alors, les premières, voyez, la première, celle du haut, est du bronze moyen. Les autres sont du bronze final. La plus élaborée est l'épée dite antenne de la partie la plus récente, celle du bas. À compter des 8e, 7e siècles avant notre ère, les épées de bronze céderont la place à des rapières de fer à lame plus longue, obtenues par forgeage à partir d'une barre de métal. On ne connaît pas les fourreaux de ces épées de l'âge du bronze. Ils devaient être en cuir, en tissu, peut-être en bois, on ne sait pas. On en connaît un exemplaire unique qui provient de Sainte-Anastasie dans le Gard et qui est composé de 2 tôles repliées, en quelque sorte, vous voyez, et décorées. Avec l'épée, les belligérants à l'âge du bronze combattaient aussi à la pique ou à la lance. C'est donc également vers 1600-1500 avant notre ère que les pointes de lance en bronze commencent à apparaître dans les cachettes et les dépôts de cette époque. La forme du limbe, sa largeur, la longueur de la douille d'emmanchement donnent lieu à des tas de variantes régionales. Parmi les pièces les plus étonnantes, on citera des modèles siciliens dont la longueur peut atteindre 60 cm. Pour être complet, il faudrait citer les protections corporelles que je n'évoquerai que brièvement. Il est vraisemblable que le cuir ou les peaux ont été tôt utilisés pour couvrir la tête et le tronc des combattants. En Occident, ce n'est que lors de l'âge du bronze final, c'est-à-dire vers la fin du 2e siècle ou les débuts du 1er millénaire avant notre ère, qu'apparaissent les casques, les cuirasses et les jambières. Ces éléments défensifs demeurent toutefois assez rares. Pourquoi ? On ne sait pas. On peut admettre, par exemple, un recyclage systématique du métal, bien entendu. Il existe un système d'armure en bronze à divers éléments juxtaposés, comme l'exemplaire grec de Dendra vers le 15e siècle avant notre ère, mais qui ne semble pas avoir été généralisé en raison de son port handicapant. En effet, les sujets figurés sur le célèbre vase aux guerriers de Mycène, que vous avez vers 1300 avant notre ère, que vous avez sous les yeux, montrent des individus qui portent une tenue légère, assurant une certaine mobilité. Une simple protection du corps, une jupe haute, le haut des jambes nues, et puis des gnémides donc qui protègent les membres inférieurs. À compter du XIIIe siècle avant notre ère, les casques européens répondent à diverses variétés. Alors, ça peut être soit des formes en cloche, vous voyez, avec un petit bouton, et ça peut être des formes, au contraire, plus pointues, avec une crête. Et ces exemplaires, je vous les ai proposés, parce qu'ils sont originaux. C'est le système des casques à cornes que l'on retrouve soit au Danemark, comme l'exemplaire de gauche, soit dans la zone nouragique, comme sur l'exemplaire de droite. Les boucliers ont pu avoir au début une forme rectangulaire, alors ça n'est pas le cas ici, n'est-ce pas ? Ce sont des stèles ibériques, ça, mais au début, les plus anciens que l'on connaisse, qui sont représentés sur la stèle des vautours, n'est-ce pas, en Mésopotamie, remontent au 3e millénaire. Mais à partir du 13e siècle, on a recours désormais à des boucliers ronds, et les boucliers encochés que l'on voit sur les stèles ibériques ou du midi de la France au cours du bronze final, ce sont celles que vous avez sous les yeux, sont inspirées de modèles est-méditerranéens. Alors vous voyez, par exemple, on voit l'exemplaire de gauche, on voit un casque, on voit la pique, on voit un bouclier et on voit une épée. Sur l'exemplaire du centre également, épée, pique et bouclier. Et sur l'exemplaire de droite également, avec quelques autres ustensiles dont je reparlerai. Prenant le relais des combattants néolithiques à l'arc, donc l'épée et la pique permettent aux belligérants de s'affronter dans un combat rapproché. À l'archer, embusqué, anonyme, se substitue un affrontement où le courage et l'adresse valorisent un protagoniste qui est déjà identifié. Au deuxième millénaire, on n'exclura pas au Proche-Orient et en Égypte, jusqu'à l'Europe du Sud-Est, le recours aux chars sur des champs de bataille, véhicules transportant des archers, et utilisé pour foncer sur la masse des fantassins et les mettre en déroute. Mais ce rôle des chars déclinera rapidement après 1200. De façon générale, le guerrier devient un acteur social reconnu en tant que tel, un spécialiste. Les tombes de guerriers, vous avez ici une tombe de guerrier trouvée en Allemagne, n'est-ce pas ? vont dès lors se développer dans plusieurs régions d'Europe. Vous voyez par exemple que ce personnage, il a une épée longue, une épée courte, un poignard, il a une hache, il a un rasoir, etc. On peut toutefois s'interroger sur ces tombes, si ces tombes, que les archéologues appellent régulièrement tombes de guerriers, ne sont pas autre chose que des tombes de dominants qui cherchent à affirmer leur statut à travers l'accumulation d'armes. Alors, arc, flèche, poignard, épée, lance, je n'ai jusqu'ici pas parlé de la hache, qui est d'abord un outil. Voilà, excusez-moi, je reviens. Voilà, en gros, la représentation d'un guerrier d'Occident autour de l'an 1000, disons grosso modo. Vous voyez, le casque, la cuirasse, le bouclier, l'épée, les gnémides, puis on a représenté une situle à côté, je ne sais pas trop pourquoi. Je n'ai pas parlé ici de l'arche, qui est d'abord un outil avant d'être une arme. Au néolithique, l'arche polie est d'abord la cognée, n'est-ce pas, qui sert à défricher, et c'est aussi un outil de menuisier. Et très vite se développent, à côté des haches, disons, fonctionnelles, des haches d'apparat, c'est-à-dire des haches qui sont constituées en roches nobles, en roches alpines, qui sont des haches parfois qui ont 30 ou 40 cm de long, et qui n'ont été que des marqueurs sociaux, soulignant le prestige de personnages importants, inhumés sous de grands tertres comme ceux de la région de Carnac, en Bretagne, au 5e millénaire avant notre ère. Mais on a pu également utiliser ces cognées du quotidien lors de massacres. Vous avez par exemple ces haches emmanchées qui ont servi à massacrer plusieurs familles vers 5000 avant notre ère, au cours du néolithique, dans la région de Thalheim, à Thalheim, dans la région de Stuttgart, en Allemagne. Voyez par exemple sur la gauche, on voit très bien le détail de crânes qui ont été défoncés à l'hache de pierre polie, et donc la partie manquante correspond exactement à la section de l'hache, bien entendu. Curieusement, au 4e ou 3e millénaire avant notre ère, beaucoup de haches vont se divulguer en Europe, que l'on appelle dans le jargon archéologique des haches de bataille ou des haches de combat. Vous voyez, elles étaient emmanchées à la verticale. Or, on les trouve essentiellement dans des tombes et aucune ne montre de traces d'usage. C'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement, malgré leur terminologie, plutôt de haches de prestige, de haches en quelque sorte de marqueurs de statut, plus que d'objets efficaces. Les premières lames à haches de cuivre, comme l'hache d'Adzi que vous avez sous les yeux ici, ça semble être plutôt des outils que des marqueurs sociaux. Plus tard, au cours de l'époque mycénienne, lors de combats rapprochés qui sont figurés sur les scènes, sur les fresques de Pylos, vous voyez des soldats mycéniens qui se battent contre des barbares, et vous voyez que ces soldats se battent essentiellement à l'épée ou à la pique, mais pas à la hache. Et vous voyez également que sur les stèles de guerriers ibériques, vous en voyez une autre que vous avez ici, on a vu dans les précédentes, n'est-ce pas, ni épée, ni lance, ni casque, on n'a vu aucune hache, mais simplement l'épée, la lance, le casque, etc. Et ce sont les mêmes pièces que l'on retrouvera ici au début de l'âge du fer, vous voyez la lance, l'épée, le bouclier en cocher, le char en bas, et puis la fibule, et ce qui est interprété tantôt comme un rasoir, tantôt comme un miroir, ce qui prouve que ce combattant n'oubliait pas aussi de soigner son physique. Alors, si cet exposé a privilégié une vision évolutive de l'armement du néolithique et de l'âge du bronze, je voudrais conclure en rappelant encore une fois le double aspect des diverses armes évoquées. Un volet pratique destiné à la chasse et à la guerre, un aspect de caractère symbolique, métaphorique. Bien des armes n'ont été que des marqueurs sociaux, des objets de parade, de prestige, d'affichage hiérarchique. Vous avez vu certaines haches de pierre dites d'apparat, certaines armatures de flèches, et sans doute aussi les premières épées qui n'ont servi qu'à connoter le rang. Si l'arme en soi est un instrument inquiétant, suscitant la crainte, son sens a souvent été détourné pour magnifier le pouvoir. Les élites de l'époque en ont cultivé le symbole pour établir une allégorie de la domination et renforcer ainsi leur position sociale. Voilà.
Merci pour ce très bel exposé et pour ces merveilleuses images. Enfin, sont des pièces de collection, enfin certaines en tout cas, sont des œuvres d'art, enfin. Alors, bon, nous avons le temps pour quelques questions, je crois du moins. Si certains veulent des précisions ou des commentaires. Oui, monsieur Azargat.
I have a strong voice, I think, but okay. There is this claim that the weapons were initially used only for hunting and not for collective warfare. Which I do not accept. But I was wondering what.
Excusez-moi, vous traduisez un peu là parce que je suis pas perdu.
Okay. Monsieur Azargat vous demande, enfin, si la distinction entre outils de chasse et armes de guerre est aussi tranchée que généralement on l'avance. Il est sceptique sur ce point.
Non, à mon sens, non. Mais il existe des populations ethnographiques où la différence est nette. Avec des armes de chasse, des pointes de flèche, par exemple, arrowheads. Only for hunting or only for war. Ça existe. Mais dans le néolithique, in the Neolithic and Bronze Age, European Bronze Age, it's not possible to see exactly the difference between the first and the second.
Oui, monsieur Christian Malis.
D'abord, merci pour cet exposé passionnant. Il y a un aspect que j'ai trouvé tout à fait contre-intuitif.
C'est que l'arme qui, dans celle que vous avez citée, met le plus le contact meurtrier à distance, donc l'arc, est celle qui apparaît initialement, et la plus en usage initialement, et ensuite semble décliner au profit d'autres armes, comme la dague, qui sont utilisées pour le combat rapproché. Je dis que c'est contre-intuitif parce que dans mon esprit, je me serais attendu à une sorte de progression où, de plus en plus, on aurait cherché à mettre à distance et donc utiliser l'intelligence et la ruse que l'arc symbolise, hein, et concrétise d'une certaine façon. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, dans les batailles hoplitiques, l'arc étant considéré comme une arme déloyale, était plus ou moins proscrit. Bon, ce qu'on retrouve dans une pièce de Ripide avec une critique de l'usage de l'arc. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet ?
Écoutez, je suis archéologue, et donc ce sont les données archéologiques qui commandent pour moi. Alors, effectivement, ce qu'on voit essentiellement, c'est l'usage de l'arc dans les conflits néolithiques, vous l'avez vu. Ce qui n'empêche pas que dans le massacre de Talaim, que j'ai évoqué vers la fin de mon exposé, les sujets ont été, certains, tués à l'arc, mais ils ont été achevés à l'âge de pierre. Voilà. Et effectivement, les combats mycéniens, en quelque sorte, mettent en avant essentiellement le combat rapproché, qui permet en même temps aux héros d'émerger, puisque, le combattant, finalement, l'archer, c'est un embusqué, d'une certaine façon, c'est un anonyme. Alors que lors du combat rapproché, le combattant glorieux, on le connaît, il est identifié. Et puis vous avez ensuite, si on va vers des périodes plus récentes, les combats de l'armée grecque, des hoplites, n'est-ce pas, qui sont alors des combats de fantassins, de masse, je dirais. Voyez. Et là, on est quand même au contact, au corps à corps. Voilà. Mais l'arc reste toujours. L'arc ne disparaît pas lorsqu'il y a combat rapproché. Il y a toujours des archers. Voyez. Donc c'est un problème, en quelque sorte, de proportion, oui, entre les combattants à distance et les combattants au contact.
Monsieur Blamont.
J'ai deux petites questions. Premièrement, qui sont pas liées. Est-ce qu'on trouve des traces du développement de la fronde ? Et puis deuxièmement, est-ce que vous en trouvez des traces de cannibalisme ? Parce que je pense qu'il y a, oui, il y a eu des endroits où on a retrouvé certainement des traces de cannibalisme. Est-ce que c'est général ou est-ce qu'on en trouve ?
Alors la fronde d'abord. On trouve dans les sites néolithiques parfois des bouts, des pierres assez calibrés, donc sélectionnés, choisis, n'est-ce pas ? Ou parfois des petites boules de terre durcie, de céramique cuite, en quelque sorte, qui sont interprétées comme des éléments de fronde. Mais on sait que la fronde a été utilisée, par exemple, par les Mycéniens. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour ces périodes-là. Pour le cannibalisme, alors là, vous touchez à un problème qui est, en quelque sorte, qui est prégnant dans le monde des archéologues. On a de la consommation d'êtres humains, ça c'est sûr, peut-être même dès les origines les plus anciennes de l'homme. Le cas le plus ancien, avancé, défendu par certains anthropologues, c'est celui de Trinchera Dolina, c'est en Espagne du Nord-Ouest, dans la région de Burgos, où vers 800 000 avant notre ère, on a dans un puits des individus qui ont été mêlés à de la faune animale, et dont les os sont cassés exactement de la même façon. Donc on pense qu'il y a déjà du cannibalisme à cette époque. Ensuite, on en trouve à une époque beaucoup plus récente au Moustérien, à partir de 100 000 avant notre ère, notamment dans un site de Croatie qui s'appelle Krapina, et où il y a également des traces de cannibalisme. Mais on en trouve à des époques récentes, donc même au Néolithique, voyez, comme c'est le cas à Fombrégois. Donc tout le problème et de savoir quel était le but de ce cannibalisme. Est-ce que c'était un cannibalisme alimentaire ? On pense qu'il s'agit plutôt d'un cannibalisme rituel, plus qu'alimentaire. C'est-à-dire qu'il pouvait s'agir soit de parents dont on ingérait en quelque sorte certains éléments pour s'octroyer, pour garder le lien de parenté, si vous voulez, pour les avoir en soi, ou alors d'ennemis coriaces, dont on essayait de, en quelque sorte, s'approprier la force, le courage, l'adresse, etc. Donc ça existe, le cannibalisme. Hein. C'est pas... Ça existe dès la préhistoire.
Oui, je vous en prie.
Est-ce qu'on a des chars de combat en Europe occidentale, et comment est-ce qu'on combat à partir d'un char?
Toujours en Europe occidentale. C'est un gros problème. Alors, les plus anciennes représentations, c'est celle d'Ur, n'est-ce pas ? C'est le fameux étendard d'Ur sur lequel vous avez des chars qui sont tirés par des équidés. Je crois que on ne sait pas si c'est des pas des chevaux sans doute, mais peut-être des émiones, des ânes, des onagres. On ne sait pas trop. Et sur lequel vous avez, je crois, si ma mémoire est bonne, deux personnages, un conducteur et puis peut-être un archer. Il y a des piques, il y a les lances qui sont représentées. Ces chars sont des chars très lourds, parce que les roues sont des roues pleines. Autrement dit, ce sont des troncs d'arbres qui ont été sciés. Bon. Alors, les roues à rayons apparaissent en Europe, en gros, à partir du second millénaire. Quoi. On a une représentation à Mycène de quelqu'un qui est sur un char à rayons avec une pique. Donc, on sait déjà qu'à cette époque-là, on pouvait combattre avec le char. Mais à ma connaissance, il y a des chars à rayons qui sont connus en Italie du Nord, au plein âge du bronze. Est-ce que ça a été des chars de combat? Ou est-ce que ça a été des chars cérémoniels, des chars de prestige sur lesquels on défilait, les personnes importantes défilaient? En général, c'est interprété comme des chars de prestige, hein, en général. Mais vous savez, en archéologie, souvent, il y a le fait brut que l'on décrit, et puis il y a l'interprétation qui est au second degré, et qui reste de toute façon une hypothèse. On connaît beaucoup de chars à rayons sur l'axe du Rhône, n'est-ce pas, et sur l'axe du Rhin, aux alentours des 9e, 8e siècle avant notre ère. Ils sont lourds, et ce sont certainement des chars de prestige.
Oui, est-ce que l'on a une idée sur la manière dont ces armes étaient fabriquées, ou sur la manière dont il y avait pu y avoir du trafic d'armes? Il fallait avoir du minerai, il fallait ensuite avoir du métal. Est-ce que c'était artisanal? Est-ce que c'était semi-industriel? Est-ce qu'on sait?
Alors, pour le néolithique, par exemple, les très belles haches d'apparat que vous avez vues, alors ça, c'est un travail de lapidaire, carrément. Donc, ces haches, vous voyez, vous les trouvez enterrées, vous les trouvez dans les grandes sépultures des tumulus bretons. Ces haches viennent des Alpes. Autrement dit, les haches ont été analysées, le matériau a été analysé, ils viennent des Alpes. C'est-à-dire, il faut s'imaginer qu'il y avait déjà des prospecteurs, des géologues, de l'époque, qui connaissaient ces roches, qui étaient des roches nobles, qui allaient les chercher, évidemment, dans les endroits, et souvent des endroits très élevés dans les montagnes alpines, n'est-ce pas, qui allaient chercher ces éléments, qui les dégrossissaient sommairement, et puis ces éléments passaient entre les mains de gens qui les polissaient. Et souvent, on a des haches qui sont polies et puis qui sont repolies. On a des reprises, en quelque sorte. C'est pour vous dire à quel point il y avait des artisans que les dominants devaient déjà, nous sommes au 5e millénaire avant notre ère, que les dominants devaient déjà se disputer pour avoir les meilleurs artisans qui faisaient les plus beaux objets qui allaient les accompagner dans la mort. Donc vous voyez déjà la complexité, d'une certaine façon, de ces sociétés. Ne vous imaginez pas les sociétés néolithiques comme des gens qui vivaient dans de petits villages, là, fermés avec leurs quatre chèvres et leurs troupeaux de blé à l'entour. Non, ces sociétés sont des sociétés de l'échange, essentiellement. Et donc, avec souvent des circulations qui sont très importantes. À la même époque, par exemple, vous avez des perles dans ces mêmes tombeaux, des perles de varicite, qui est un minéral vert, qui viennent du sud de la péninsule ibérique. Donc, vous voyez, les perles viennent du sud de la péninsule ibérique, les haches viennent des Alpes et se retrouvent dans les tombeaux des puissants de l'époque. Alors, s'agissant des armes de bronze, maintenant, c'est un artisanat qui est un artisanat probablement très spécialisé dès le début, parce qu'on voit essentiellement des aires où devaient se trouver des ateliers. Et on pense qu'il pouvait y avoir des fondeurs ambulants, c'est-à-dire des gens qui, après s'être procuré le métal, pouvaient circuler, pouvaient fabriquer des armes, ou alors ils fabriquaient au même endroit et eux-mêmes circulaient pour aller les céder. Mais il les cédait également à des gens importants. Il est probable donc que, comme les haches polies, les premières épées ont été des marqueurs du rang, essentiellement. D'ailleurs, il y a un exemple qui est très bon là. C'est une nécropole de 300 sujets qui a été fouillée dans le nord de l'Italie, qui remonte au XIIIe siècle avant notre ère. 300 sujets. Sur 300 sujets, il y a une trentaine simplement de tombes masculines, d'hommes donc, qui ont une épée. On s'y tient déjà la naissance d'une, je mets des guillemets, d'une caste militaire, n'est-ce pas, d'État ? Seulement, qu'est-ce qu'on voit à côté ? On voit qu'il y a une trentaine de tombes de femmes qui ont une très grande épingle. Alors, c'est plutôt des dominants. Les hommes se signalant par les armes, les femmes se signalant par les épingles de bronze. Vous voyez comment, en même temps, je veux essayer de vous montrer que l'archéologie a des problèmes d'interprétation, bien entendu. C'est-à-dire que si vous partez dans une optique purement militaire ou militariste, vous direz, ben voilà, il y a une classe de guerriers déjà qui se manifeste. Alors que si vous avez une vision plus pacifique des événements, vous direz non, c'est une classe sociale qui émerge et qui se distingue par des marqueurs sociaux, des marqueurs de prestige.
Malice, oui, là, ce sera la dernière question.
On lit parfois que l'origine de la guerre conçue comme une violence organisée à des fins politiques, coïnciderait avec les naissances des États, mettons les premières cités-États en Mésopotamie, et que cela correspondrait à une réduction de la violence, une violence putativement endémique de tous contre tous, impliquant aussi les femmes, et en passant à un modèle plus spécialisé où, au fond, la guerre est assumée un peu par des champions. Est-ce que vous partagez cette vue générale ou pas ?
Le problème, c'est que je crois que cette vue générale est bonne en état des données, puisqu'on sait que les cités mésopotamiennes se battent et puis pour faire du butin, pour faire des prisonniers, des femmes que l'on rapte, etc. Mais le spécialiste du néolithique, en quelque sorte, voit toujours des antécédents dans ces choses-là. Du néolithique, voire avant. Le Djebel Saaba, par exemple, Alors, est-ce que c'est une guerre ? Est-ce que c'est un massacre ? Ça aussi. Nous ne voyons jamais, en quelque sorte, les tueurs. Nous voyons toujours les victimes, simplement. Alors, on ne sait pas si ce sont deux groupes qui se sont fait la guerre avec un vainqueur, un vaincu, ou si c'est un groupe qui est allé carrément, délibérément, massacrer un autre, sans que l'autre n'ait quelques griefs, n'est-ce pas, envers le précédent. Ça, c'est très difficile. Au Djebel Saaba, on a trouvé 59 tombes. Il y en a 24 dans lesquelles les individus ont les os percés de flèches. Et puis alors, parfois, plusieurs flèches. Oui. Bon. Donc, ils ont été massacrés. On peut dire les autres, mais les autres, ils sont enterrés avec. Ils sont parfois enterrés dans des fosses où l'on retrouve des pointes de flèches, non pas dans les os,
mais des flèches erratiques dans le remplissage de la tombe, ce qui veut dire que peut-être ces gens-là ont également été tués, mais dans les parties molles du corps, et donc on ne retrouve pas les flèches dans les os, mais disons dans le sédiment ambiant, si je puis dire. Voilà. Les combats que vous avez vus du Levant espagnol, c'est de la guerre. Évidemment, il faut tout ramener à l'échelle du néolithique. Ça ne fait intervenir qu'un nombre de combattants réduits. Il y a une scène que vous n'avez pas vue dans l'art du Levant espagnol où on estime à peu près à une cinquantaine le nombre d'intervenants d'un côté. Donc, disons en gros 50 de l'autre. Si on admet que seuls les hommes jeunes se battent, vous ajoutez à cela les adultes ou les personnes âgées, les femmes, les enfants, ça vous fait des communautés de l'ordre au moins de 200 habitants. 200 habitants, on est en plein néolithique, donc vous voyez, là, il y a vraiment intervention de gens dans une confrontation. Voilà. Alors ça, on en est revenu de ça. Autrement dit, pendant longtemps, on a estimé que la moyenne de vie au néolithique pouvait se situer autour de 25-30 ans. Mais maintenant, l'anthropologie montre qu'il y a des, permettez-moi le mot, entre guillemets, des vieillards de 60 ans jusqu'à 70 ans qui existent, qui sont là. Ils ne se battent pas forcément, mais je veux dire, on a des gens relativement âgés de ces époques-là aussi. Des gens qui sont passés à travers mailles.